Stop, c'est parti.
Comment ça marche le journalisme?
Sur Twitter, Instagram.
On est dans un moment de grande confusion.
C'est votre dernier mot.
Il est 9h40, vous êtes toujours sur France Inter et c'est l'instant M qui recommence.
Quand on regarde une série, on sait que ça va se terminer.
Vous me spoilez?
Spoil.
On ne se ferme pas les yeux aussi facilement qu'on se bouche les oreilles.
Bruno Patineau a été nommé PDG d'Arte France au mois de juillet. La chaîne est en grande forme. Ses audiences se sont envolées durant le confinement. Même avant, sa part d'audience n'est pas redescendue depuis. Quant aux vidéos que les téléspectateurs peuvent désormais voir ou revoir sur le site arte.tv ou sur YouTube, là aussi, le compteur s'affole. 140 millions par mois. Soit. Mais dans le monde entier, le compteur s'affole. La pandémie sert les richissimes plateformes américaines de vidéos à la demande. Disney Plus s'est lancé il y a seulement 10 mois et compte déjà 60 millions d'abonnés. Netflix a dépensé l'année dernière 15 milliards de dollars dans les programmes. Tous ces chiffres sont sans précédent. On se goinfre littéralement d'images et on en redemande. L'argent coule à flot comme jamais pour en fabriquer. Comment nos petites chaînes publiques peuvent-elles continuer à exister dans ce tourbillon?
L'instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
President Trump built a great economy, and amidst a global pandemic, he's doing it again. The Great American Comeback. 3 months of record job growth. An incredible 9.3 million jobs added. Devastated industries adding back hundreds of thousands of jobs. Women and minorities going back to work in record numbers. Unemployment dropping again. President Trump's renewing, restoring, rebuilding our economy. And the best is yet to come.
I'm Donald J. Trump, and I approve this message.
Et avant d'interviewer le patron d'Arte en France, je vais poser une question à l'auteur du best-seller La civilisation du poisson rouge, petit traité sur le marché de l'attention, que j'ai l'honneur de recevoir. Bonjour Bruno Patineau.
Bonjour.
J'ai lu dans Les Échos ce matin que pour Facebook et Google, l'élection américaine était déjà gagnée. Figurez-vous, en 10 mois, les équipes de Joe Biden et de Donald Trump ont dépensé la somme cumulée, tenez-vous bien, de 192 millions de dollars en publicité politique sur Facebook, soit plus du double par rapport à la dernière élection. Et chez Google, les deux candidats ont lâché 218 millions de dollars depuis le 30 mai 2018. On a comptabilisé aussi les pubs achetées par leur comité de soutien sur Google. C'est le président sortant, Donald Trump, qui a davantage mis la main au portefeuille, ce qui explique notamment la présence massive de publicités politiques faisant la promotion de Trump sur la page d'accueil de YouTube étant une filiale de Google. Pourquoi je vous pose la question à vous, Bruno Patineau? Parce que la guerre fait rage depuis hier sur les réseaux sociaux aux États-Unis. C'est une bataille de messages ultra virulents pour disqualifier l'adversaire, voire disqualifier le vote. Or, ce grand chaos idéologique, ce grand chaos éditorial, dans votre livre, vous disiez, il y a déjà 2 ans, qu'il relevait en réalité d'un ordre économique.
Oui, je pense que merci de le citer. Je pense que ça, la période actuelle montre, je crois, la pertinence du propos. Pardon de dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'en gros, sur ces plateformes, comme vous le savez, voisines à la fois de l'information, de l'opinion et de la croyance.
Ouais.
Mais évidemment,
dans un désordre fabuleux.
Dans un désordre fabuleux ou pas exactement dans un désordre fabuleux, parce que ces plateformes ordonnent et accélèrent, et elles ordonnent et accélèrent les messages qui sont les plus efficaces en termes d'efficacité de réseau économique, donc ceux qui vont être partagés le plus vite possible et qui vont provoquer le choc émotionnel le plus grand possible pour être vu. Et évidemment, dans ce grand maelstrom, ce qui est favorisé, c'est ce qui est le plus émotionnel et le plus proche des croyances et des émotions.
C'est exactement ce que vous écriviez. Vous disiez que pour nous capter, pour ne plus nous lâcher, les messages qui font le plus douter, qui bousculent le plus, qui questionnent le plus, qui émeuvent le plus, qui nous indignent le plus, seront les plus partagés, les plus commentés et les plus recopiés, et donc ceux que les réseaux sociaux favorisent.
Exactement, c'est-à-dire que le chaos éditorial, c'est un ordre économique en fait, et un ordre économique qui est avant tout fondé sur l'efficacité en termes d'émotion. Alors juste pour dire deux mots, c'est-à-dire que malgré tout, Twitter et Facebook ont essayé de faire un peu de ménage.
Ouais, surtout Twitter.
Surtout de limiter un peu, de signaler les tweets pour Twitter, de limiter un peu le partage ou l'accélération d'un certain nombre de messages les plus, on va dire, les plus fous. Ça n'a pas été le cas de YouTube, qui est resté plutôt comme avant dans cette élection. Mais on voit bien que quand on demande aux plateformes ou quand elles-mêmes s'imposent le fait de faire un peu de nettoyage et un peu de ménage, si j'ose dire, ça ne résout pas le fond de l'affaire, qui est cette accélération permanente des messages les plus outranciers possibles.
C'est ça. Allez, on va en venir à la question d'Arte, qui est notre sujet ce matin. Arte.tv, on va commencer avec votre plateforme, on va commencer par le numérique, parce que vous aussi, vous devenez un conquérant du numérique. Excellente plateforme Arte.tv que vous renforcez avec une kyrielle de nouvelles séries proposées en ligne, gratuitement, au public français. On a choisi, comme ça, par hasard, The Virtues.
Fucking knackered, mate. Knackered. I was up 5 times last night. Trying to kill me, I'm telling you. I should do my bastard head in.
Sur Arte.tv, plus des deux tiers de l'audience se fait sur des programmes non diffusés à la télé. Ça, c'est un chiffre extrêmement intéressant. Alors, d'un côté, on voit France Télévisions qui rejoint Salto aux côtés de M6 et TF1 avec une offre payante. On voit Canal+, qui a présenté hier la nouvelle version de Canal Play, qui est sa plateforme sur abonnement. Elle aussi, une plateforme qui propose des docs, des séries, des films venant de Canal+, mais d'autres chaînes également. Vous militez pour la gratuité.
Alors, militer, en tout cas, nous, notre responsabilité, c'est cette gratuité, parce qu'on est financé par la redevance. Donc, on est financé par tout le monde.
Ouais.
Donc, il me semble logique, si vous voulez, que tout le monde ait le droit de voir Arte, quel que soit son usage par rapport au contenu audiovisuel. Et donc, dans notre esprit, effectivement, comme offre de service public, nous devons être une offre gratuite.
Mmh.
Et pour être une offre gratuite, j'allais dire, de notre époque, il faut pas se limiter à l'usage de la télévision, mais il faut devenir une sorte de bouquet de propositions éditoriales, c'est-à-dire d'approcher à peu près tout le monde dans les usages, et les tons habituels. Donc on a aujourd'hui un bouquet de 3 propositions éditoriales qui, pour nous, ont la même importance. D'une part, il y a la chaîne linéaire,
Arte,
que tout le monde connaît.
Voilà.
Il y a Arte.tv qui est effectivement la plateforme d'Arte,
ouais,
disponible sur application, par application, sur la télé connectée, et dont l'interface est de plus en plus disponible avec les IPTV, où on propose une expérience qui est différente.
Ouais.
Et puis, il y a les chaînes sociales, YouTube, Facebook, Instagram et autres. On a 37 chaînes YouTube qui ont aussi leur importance. Et il faut bien voir que, pour nous, c'est ce bouquet-là qui fait Arte, en fait. Arte n'est plus seulement une télévision, c'est un label éditorial qui propose un certain nombre de programmes à ceux qui les regardent.
Et bien justement, à propos de label éditorial, j'avais une question à vous poser. Vous n'êtes pas co-actionnaire de Salto aux côtés de TF1, M6 et France Télé, je l'ai dit, mais Salto pourrait très bien vous acheter des programmes, hein, et les mettre en vitrine, les proposer à ses abonnés. Par exemple, j'ai vu que sur Canal Play, il y avait plein de programmes Arte que vous leur aviez vendus, qu'ils vous ont achetés. Pourquoi est-ce que vous avez pas trouvé d'accord commercial tout simplement avec Salto? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est que quand Salto propose des programmes à ses abonnés, on ne voit plus de quelle chaîne ils sont issus. On ne voit pas, quand on regarde un Captain Marlowe, que Captain Marlowe est une série France 3. Et j'ai posé cette question au directeur de Salto, ici présent, et il m'a répondu, on s'en fiche, c'est plus du tout la question de quelle est la chaîne d'origine.
Alors, ce qui est bien, c'est que vous avez posé une question et vous avez donné des éléments de réponse.
Pourquoi ?
C'est-à-dire que, en gros, Salto agit certes comme un distributeur,
ouais,
et Arte discute avec tous les distributeurs possibles, puisque nous, notre vocation,
donc,
c'est
vous
d'être...
Vous en mettez un temps à discuter avec Salto ?
On vous dit pas que les discussions ont commencé il y a longtemps, donc
d'accord,
si ça se trouve, on met pas trop de temps. Mais donc, si vous voulez, comme tout distributeur, on discute avec eux, on a nous vocation à être distribué par le plus grand nombre d'acteurs possibles, et c'est
donc
une bonne chose.
Donc ils pourraient vous acheter des programmes.
Donc ils pourraient nous distribuer, et on discute d'une possibilité d'être distribué. Maintenant, sur la marque... C'est très important ce point, si vous me permettez d'y revenir, parce que c'est pas un détail ou c'est pas quelque chose où on dit tout ça n'a plus d'importance, etc. La marque Arte, pour nous, nous ne sommes pas un assembleur. Nous faisons des propositions éditoriales à des gens qui nous font confiance. C'est-à-dire que nous mettons dans ces mots Arte, dans ces lettres Arte, tout le lien qui nous unit avec les gens qui nous regardent à la télévision, sur les plateformes ou ailleurs. Ça veut dire que d'une certaine façon, nous prenons la responsabilité de leur mettre à disposition et de créer pour eux la rencontre avec ce qui a été
donc un programme
créé.
Arte doit porter la marque Arte, oui, quel que soit l'écran sur lequel on le regarde et quel que soit le canal par lequel on y arrive.
Mais bien sûr, parce qu'il y a un engagement éditorial là-dedans, mais un engagement qui n'est pas que pour nous. Ça veut dire, vous qui nous faites confiance, à un moment donné, on s'engage à mettre ce programme à votre disposition et à vous le faire connaître. Donc, si vous voulez, c'est pour ça que, en gros, quand je dis un bouquet de propositions éditoriales, pour nous, il est très très important de savoir que tout ça construit du lien. Et ce lien-là, ça passe par plusieurs choses. D'abord parce que Arte, ça n'est pas, comme je vous l'ai dit, qu'un assemblage.
Oui, oui.
C'est une ligne éditoriale qui porte un certain discours, une vision du monde, qui essaye de mettre du temps à disposition, à disposition de ses utilisateurs et de ses téléspectateurs. Et puis par ailleurs, parce que dans ce monde d'hyper-offres, d'hyper-choix, etc., de temps en temps, c'est pas mal de donner des outils de distinction. Et finalement, le choix éditorial à un moment donné est un outil de distinction. Après, l'utilisateur fait ce qu'il veut. Le téléspectateur fait ce qu'il veut, mais il fait son choix en connaissance de cause avec ce label-là.
Et ben, on va en parler justement de ce monde d'hyper-offre. The Mandalorian, la série télé dérivée de Star Wars, deuxième saison, arrive sur Disney+.
Les éternelles chansons d'antan parlent de bataille entre Mandalore le Grand et un ordre de sorciers du nom de Jedi.
Tu me demandes de parcourir la galaxie à la recherche de son foyer et de le remettre à une race de sorciers ennemis.
Telle est la voie.
La pandémie est une aubaine incroyable, je l'ai dit, pour les plateformes de vidéos à la demande. Déjà 60 millions d'abonnés dans le monde pour Disney+. Vous avez vu The Mandalorian, Bruno Patino, patron d'Arte?
Non, je dois avouer que celui-là, je ne l'ai pas vu.
Vous n'aimez pas Star Wars?
J'adore Star Wars.
Ah, bah voilà une bonne
vous
nouvelle.
Vous savez, j'ai l'âge d'avoir vu le premier en 1977 au cinéma.
Au cinéma. Alors, pour faire face à ces rouleaux compresseurs, il vous faut de l'argent. Il vous faut beaucoup d'argent pour acheter des droits, pour mettre des séries anglaises, par exemple, sur Arte.tv, mais aussi des séries danoises ou polonaises, ce que vous voulez, et aussi pour produire plus. Or, vous êtes dans une période où les dotations des chaînes publiques baissent. Comment résoudre cette équation?
Alors,
elle est infernale.
C'est une équation difficile. J'insiste sur ce point que nous sommes avant tout une chaîne de production en plus.
Oui.
C'est-à-dire que la part de production est infiniment supérieure à la part d'acquisition. Donc effectivement, c'est pour ça que je tiens à cette idée. C'est-à-dire que Arte ne fait pas qu'acheter des programmes. Arte, avant tout, pour 80% de ses programmes, un peu plus d'ailleurs, les produits ou les coproduits.
Absolument.
Donc quand vous parlez d'une série danoise, vous parlez en fait d'une série qui parle danois, mais qui est coproduite par les Danois et les Français.
C'est ça.
Quand vous parlez d'une série anglaise, de temps en temps, elle va être coproduite par Arte. Et...
Mais Netflix augmente son tarif aux États-Unis avec une offre à 14 $. Pourquoi? Parce qu'ils veulent mettre toujours plus d'argent dans des nouveaux programmes. 15 milliards de dollars l'année dernière. Comment on fait pour lutter face à ça?
Comment? D'abord, deux choses. Moi, j'ai une conviction, c'est que vous avez cité tous ces chiffres qui sont tout à fait justes et qui montrent que, en fait, on est dans un moment où, d'abord, on est dans le moment de la plateformisation du monde, en réalité. Et donc, la plateformisation, elle a lieu pour, hélas ou pas, d'ailleurs, beaucoup d'autres points. Et évidemment, dans l'univers de la télévision, de la vidéo et du divertissement, la plateformisation a pris une accélération folle pendant ce confinement et ça ne reviendra pas en arrière. Mais si vous voulez, on est dans le moment où cette plateformisation ne se fait que par outils de puissance.
Oui.
Et donc, on est sur des plateformes mondiales, avec des moyens mondiaux, qui essayent effectivement, qui sont dans un combat de titans à l'échelle mondiale.
Et vous n'êtes pas très puissant.
Mais
vous êtes de grande qualité.
Aucune stratégie de puissance. Ça serait ridicule de ma part de vous dire, attendez, Arte.tv va lutter à armes égales contre Netflix. Enfin, personne ne pourrait croire un seul instant que je suis raisonnable en disant quelque chose comme ça. Non, je pense qu'il y a une possibilité aussi d'une stratégie d'affinité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous ne serons jamais légales en termes de quantité, de moyens hauts de Netflix, mais on va pouvoir avoir une offre affinitaire. Après, il faut avoir les moyens de cette offre affinitaire.
Oui.
C'est-à-dire que malgré tout, dans le regard du téléspectateur, dans votre regard, mon regard, le regard de tous ceux qui nous écoutent, la valeur de production, elle passe certes par la qualité du lien avec l'auteur. Là, on pense qu'on a nous des éléments à faire jouer. Cet historique du lien avec les créateurs, cette capacité à mettre du temps à étudier les programmes,
tout ça on a.
Mais il nous faut aussi des moyens pour avoir une valeur de production qui soit quand même comparable à ce qui se fait par ailleurs.
Alors, en ce moment, le gouvernement français est en train d'imposer à toutes les plateformes américaines, Amazon Prime, Disney+, Netflix et les autres, qui veulent des abonnés en France et toujours plus d'abonnés en France, et est en train de leur imposer de dépenser 20% de leur chiffre d'affaires dans des films français, dans des séries françaises, dans des documentaires français, dans des dessins animés français. L'enjeu est gigantesque parce qu'il y a peut-être 200 millions de dollars qui va tomber comme ça sur les productions françaises. Ça peut être une très bonne nouvelle. Ça peut aussi être une mauvaise nouvelle, Bruno Patino. Qu'est-ce qui va vous rester à vous comme production française à acheter pour les télés françaises? Qu'est-ce qui va vous rester?
Alors, deux choses. Vous avez mis le doigt sur un point qui est réel, c'est-à-dire que dans cette transposition, sans être trop technique, les modalités de transposition vont être très importantes, c'est-à-dire...
Et elles ne sont pas encore complètement fixées.
Non, elles ne sont pas complètement fixées, ouais. Et en particulier, est-ce que, je ne veux pas rentrer trop dans la technique, mais est-ce que on est dans du full commissioning d'un côté, c'est-à-dire que est-ce que finalement on laisse les plateformes redevenir les studios hollywoodiens des années 20?
C'est ça.
C'est-à-dire à avoir...
Sauf que les studios hollywoodiens, ils produisaient à Hollywood. Là, peut-être que la moitié de la production française va être financée par des firmes américaines.
Et c'est toujours heureux quand même quand il y a plus de production, parce que quand il y a plus de production, il y a tout un tissu sur lequel qu'on encourage.
Ouais.
Et donc moi, je suis très heureux qu'il y ait plus de production. Maintenant, il y a les modalités d'une part, où il faudrait effectivement que ce plus de production maintienne quand même la spécificité française en termes de droit, en termes de capacité pour les producteurs de maintenir leurs droits de producteurs délégués. Mais l'autre point, qu'est-ce qui nous reste, nous, il nous reste quand même dans cette politique affinitaire le temps qu'on passe avec les créateurs. Et je crois évidemment qu'il nous faut de l'argent pour produire, bien évidemment, personne ne va vous dire le contraire. Mais ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'après le premier gigantesque appel d'air, et peut-être qu'il y en aura un autre beaucoup plus grand, comme vous le dites, avec la transposition SMA, la qualité de travail, c'est-à-dire la haute couture, pardon de le dire comme ça, ou en tout cas vraiment la haute couture qu'on peut faire avec les documentaristes, les auteurs de fiction, etc.,
va continuer
cette
de faire la différence.
A une valeur. Qu'est-ce que vous appelez faire la différence? Faire la différence, ça veut dire, est-ce qu'on continue à attirer les créateurs et les auteurs?
Ouais.
Ma conviction, c'est qu'on va continuer à les attirer si on a cette qualité relationnelle avec eux et si on se met, nous, à leur service, au service de leur création et de provoquer cette rencontre avec les téléspectateurs et les auditeurs. Donc cette spécificité d'Arte, de croire dans le temps passé pour créer de façon qualitative, je pense que c'est ça la voie de sortie.
Revenons à la télévision traditionnelle avec une dernière question, parce qu'elle est encore très très bien portante, cette télévision traditionnelle. Une de vos forces de frappe en termes d'audience, c'est le cinéma. Plus d'1,5 million, parfois 2 millions, pour des films diffusés en milieu de semaine par exemple. Un mercredi soir, Adieu Berthe, Denis Podalites, qui pulvérise des records. À l'époque, vous étiez les seuls à pouvoir diffuser du cinéma ce jour-là, comme le vendredi, comme le samedi. Toutes les chaînes sont désormais autorisées à le faire.
Oui, mais moi encore une fois, je suis pas un obsédé de la concurrence.
Ouais.
Ce qui nous obsède,
ouais,
c'est le lien. Et c'est donc de provoquer cette rencontre émotionnelle. Le cinéma est un moment de rencontre émotionnelle extraordinaire. Donc de mettre un moment...
Et c'est une des grandes forces d'Arte.
Bien sûr.
Ouais,
chaîne, vous avez bien dit, elle va bien. Hein, son audience, la chaîne elle-même, son audience historique, si j'ose dire, c'est plus 27% en 3 ans. Vous vous rendez compte? Qui fait ça? Bon. Et donc, le cinéma... Non. Ce que je veux dire par là, c'est que dans un moment... Dans un moment où on dit que tout le monde baisse, c'est pas vrai. Je veux dire, la chaîne se porte très bien aussi. Ce que je veux dire par là, c'est que... Ce qui nous intéresse, nous, c'est la programmation. C'est quel film on programme à quel moment. Encore une fois, nous ne sommes pas des assembleurs. On fait une proposition éditoriale qui est du cinéma ailleurs. C'est parfaitement heureux pour le cinéma.
Voilà. Et donc, non seulement vous êtes président d'Arte, mais je précise qu'au partir du mois de janvier, vous allez être aussi pour 4 ans le patron du groupement franco-allemand Arte GEIE. Donc, au lieu de jouer en défense, vous allez jouer en attaque, c'est ça, vis-à-vis des Allemands?
Oh non, vis-à-vis des Allemands, on joue toujours de façon fraternelle et surtout on joue dans la même équipe. Mais en revanche, on aura le regard tourné vers l'Europe.
Très bien. Ben, j'aimerais bien que vous veniez nous en reparler, justement, face à cette énorme offensive américaine de ce que c'est que l'Europe audiovisuelle. Merci beaucoup, Bruno Patino, d'avoir été l'invité de l'Instant M. Bonjour, Ali Rebé.
Bonjour, Sonia De Villers.
Alors, dans grand bien vous fasse.
Est-ce que vous vous souvenez quand vous étiez en télétravail pendant le premier confinement?
Oui, bah
bon,
oui.
Bon, ben voilà. Ben, alors, quand le télétravail empiète sur la vie privée.
C'est ça.
Si vous êtes en télétravail, n'hésitez pas à faire une pause en nous appelant 01 45 24 7000. Racontez-nous.
Et faites parler vos enfants. Ou invitez les miens, ils vous raconteront.